Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Ce matin, nous parlons nutrition avec nos invités à l'aube du mois sacré du Ramadan. Pourquoi consacrer une émission à santé pour le Ramadan? Eh bien, tout simplement pour rappeler qu'il est très important de garder une alimentation variée, équilibrée, ne pas trop ingérer de sucre, des aliments riches en sucre ou en mauvais gras, et en respectant les traditions alimentaires. En effet, paradoxalement, la période du jeûne est synonyme de hausse de la consommation alimentaire. Plus on jeûne et plus on a faim. Comment partager en famille ce moment privilégié à s'en mettre en danger à sa santé? Comment l'organisme réagit à la privation de nourriture? Pourquoi est-il très important de consulter son médecin avant de faire le Ramadan pour les personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension? On en parle avec nos invités déjà installés sur le plateau de la radio africaine. Alors nous avons Vanessa Matromarino. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes diététicienne de santé publique et nutritionniste en Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous accompagne sur le plateau de la radio africaine, deux femmes qui font le Ramadan et qui préparent les repas. Elles vont nous parler de leur façon de faire, leur façon de s'organiser, de leur prise de conscience en termes d'alimentation et de surconsommation. J'accueille pour cela Atoumata Sissoko, merci d'être avec nous. Atoumata nous accompagne aussi Aminata Dongo. Merci à toutes les deux, toutes les trois d'avoir répondu à notre invitation. Ça y est, on connaît les dates, on attend quand même la confirmation. Hein. C'est du 5 mai au 4 juin prochain et les musulmans qui vont observer le jeûne du Ramadan devront s'abstenir de manger et de boire de l'aube au coucher du soleil. Alors tout d'abord, vous Vanessa, la durée du jour conditionne celle du jeûne en mai et en juin. Ce dernier peut varier et durer de 14 à 16 heures par jour. Un rythme éprouvant. Merci de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors oui, cette année, c'est assez particulier. Ça commence en mai, ça court jusqu'au mois de juin et les journées sont très longues en cette période, Vanessa.
Ça fait plusieurs années déjà que le Ramadan est situé comme ça, printemps, été, et que du coup, les journées de jeûne sont assez longues, voire très très longues. Bon, après, on va en discuter avec les deux autres invités, mais en général, c'est surtout une phase d'adaptation au départ, et après, le corps s'adapte plutôt bien.
Alors, est-ce qu'on peut justement, à quelques jours du début du Ramadan, préparer son organisme à jeûner? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, je dois me préparer? Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'il y a des conseils à donner aux éditeurs qui veulent préparer leur mois de jeûne?
Se préparer, pas forcément, parce que du coup, de toute façon, la phase d'adaptation, il faudra la faire, que ce soit un petit peu avant ou les premiers jours du Ramadan, il faudra faire la phase d'adaptation. Mais peut-être préparer, du coup, quelques idées de menus équilibrés pour pas se laisser embarquer dans le flow du rythme un peu chargé avec le travail, la préparation des menus, etc. Plutôt prévoir les choses à l'avance.
Alors, lorsque l'on prive son organisme de nourriture du lever au coucher du soleil, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme? Racontez-nous un peu ce qui se passe dans notre métabolisme, Vanessa.
Alors au départ, il y a des sensations qui sont pas forcément très agréables, c'est-à-dire qu'il va y avoir une sensation de faim qui va être importante, la soif aussi, parce qu'on se prive de boissons également. Donc la faim, la soif qui au départ, les premiers jours, sont assez présents. Peut-être un petit peu de fatigue aussi, des maux de tête, parce que parfois le café du matin, par exemple, c'est quelque chose qui peut manquer pas mal pour beaucoup de gens. Donc du coup, ça peut entraîner des maux de tête, des maux de ventre, etc. Mais en général, quand c'est fait dans de bonnes conditions et qu'il n'y a pas de problème de santé, le corps s'adapte assez vite et en moins d'une semaine, toutes ces sensations plutôt négatives disparaissent et c'est remplacé par des sensations positives, c'est-à-dire de la légèreté, ouais, une meilleure digestion, peut-être même un regain d'énergie qui peut arriver aussi. Tout dépend dans quelles conditions est exercé le Ramadan.
Et justement, combien de temps dure cette période d'adaptation, Vanessa?
Ça dépend des gens, mais je dirais 4 jours, 4-5 jours à peine, ouais, 4-5 jours.
Alors, nous accompagne Atoumata Sissoko, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes venu nous raconter un petit peu comment vous préparez ce Ramadan, comment vous vivez aussi ce mois de Ramadan, puisque vous préparez les repas. Vous allez nous parler de votre façon de vous organiser, votre façon de faire, et surtout de votre prise de conscience en termes d'alimentation et de surconsommation. Merci de nous rejoindre, Atoumata, vous allez bien?
Oui, ça va, merci. Merci de m'accueillir.
Alors, comment on se sent à quelques jours du début du Ramadan? Rapprochez-vous un petit peu du micro, on ne vous entend pas très bien.
Alors, comment on se sent ? Eh bien, je suis un peu comme, comme quelqu'un qui se prépare à faire un sprint, j'ai envie de dire. Je suis en préparation psychologique là, pour les jours à venir. Moi et mes enfants, puisque mes enfants, je suis une maman de deux enfants, un fils de 18 ans et une fille de 14 ans. Et les deux font le ramadan, enfin en tout cas l'aîné fait le ramadan
ouais.
Et ma fille souhaite faire le ramadan. Donc il y a également donc, une préparation effectivement pour moi, mais également pour mes enfants, pour que cela se passe bien.
Alors se préparer, oui, mais comment ?
Alors la préparation, c'est pour moi déjà commencer, ce que je ne faisais pas d'habitude, c'est réfléchir justement à ce que je vais préparer à l'avance pour cette période de jeûne, puisque j'avais tendance à faire un peu tout à la dernière minute et surtout faire ce que j'ai l'habitude de faire, même au niveau de ma famille, c'est-à-dire préparer des très grands plats, bien salés,
ouais.
Bien chargés, et puis répondre un peu aux demandes de tout le monde sans chercher à savoir si le repas était équilibré. Et cette année, j'ai envie de faire les choses vraiment différemment, puisque j'ai pris conscience pour des raisons de santé, en dehors du ramadan, donc j'ai dû rééquilibrer mon alimentation. J'ai
dans la vie de tous les jours depuis,
oui.
D'accord ?
Et ça depuis on va dire quelques mois, on va dire deux mois.
D'accord.
En quelque sorte, j'ai déjà préparé mon corps puisque j'ai fait une détox qui a permis d'éliminer donc les toxines, de retrouver effectivement tout à l'heure au démarrage on a parlé de retrouver un regain d'énergie et de vitalité, donc c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et donc pour moi ça va faire partie effectivement du démarrage du ramadan, c'est vraiment de chercher à équilibrer l'alimentation pour moi et mes enfants et puis pour pouvoir surtout les faire tenir eux aussi durant toutes ces longues heures de jeûne, puisqu'ils sont scolarisés, donc il y a aussi cette question de savoir comment faire pour qu'il n'y ait pas trop de conséquences en fait.
Alors justement, quelles sont leurs demandes en général ? Vers quels aliments se dirigent-ils les enfants en période de ramadan ?
Alors ça va être très simple, c'est, puisqu'il y a privation, alors ça veut dire que dans leur esprit, ça va être tout ce qu'ils n'ont pas l'occasion de manger, donc ça veut dire des choses très sucrées, vraiment sucrées.
Viennoiseries.
Ce que je cherche à bannir, c'est tout ce qui est cornflakes, parce que en fait ça fait partie aussi de la profusion de toute cette nourriture que l'on met sur table, et je le faisais aussi, c'est pas que les enfants, puisque c'est moi qui achetais, c'était vraiment l'idée de mettre à leur disposition tout ce dont ils avaient envie, mais sans chercher à savoir si c'était bon pour eux ou pas. Et en fait, j'ai découvert justement par ma détox que tout ce qui était cornflakes, céréales, c'était plein de sucre, plein de...
Et comment vous avez réussi à les convaincre de... peut-être pas d'arrêter totalement, ou en tout cas de lever un peu le pied. Comment vous avez réussi à les convaincre ?
Alors, c'est pas simple, je suis toujours en train de chercher à les convaincre.
D'accord.
Mais il y a eu quand même des changements, il y a eu une prise de conscience, parce que je leur parle beaucoup et je les documente aussi beaucoup par rapport justement aux effets néfastes. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont compris. Maintenant, il faut changer les habitudes et ça ne se fait pas en un jour. Donc, je vois qu'il y a des choses qui ont déjà changé. J'ai ma fille aussi qui a compris et qui me demande justement de mettre dans les repas des légumes. Alors, quand ma fille me demande ça, je me dis c'est chouette, c'est que
ouais.
On avance.
Ouais.
Voilà, les choses ne se font pas du jour au lendemain, mais à un rythme, ce qui me paraît normal. On ne peut pas changer les habitudes comme ça. Donc, la prise de conscience est la plus importante. Donc là, je pense qu'on est vraiment en train de démarrer quelque chose de nouveau et en espérant que cela va durer.
Alors Vanessa, votre réaction au témoignage d'Atoumata, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette prise de conscience familiale même ?
Mais franchement, c'est super. Surtout, ce qui est important, ce qui a été dit, c'est que quand on change les habitudes alimentaires, quelle que soit la période, un ramadan ou pas, et quel que soit l'âge aussi, l'idée c'est de prioriser les choses, c'est-à-dire qu'on avance petit à petit, on change certains points sur lesquels on estime que vraiment là il faut faire quelque chose, notamment les produits très très sucrés, très très industriels, etc. Et puis après on évolue petit à petit en famille, on prend conscience, informer aussi parce qu'ils sont grands en plus vos enfants, donc vous pouvez facilement discuter avec eux, leur montrer des informations, des articles, qui peuvent leur faire prendre conscience eux-mêmes, parce que ça va les suivre toute leur vie, leur alimentation, leur faire prendre conscience qu'il faut peut-être essayer de limiter les choses sur certains produits et pas complètement se laisser porter au niveau alimentaire.
Alors le ramadan, c'est également l'occasion pour les industries de l'agroalimentaire de faire des affaires. Alors que le mois sacré approche, les grandes enseignes de la grande distribution proposent des produits spécifiques pour la rupture du jeûne. Et on le sait, la surconsommation et le gaspillage en période de jeûne, puisque la consommation alimentaire des ménages augmente généralement de 40% pendant le mois saint. Comment on explique ce phénomène, peut-être les uns les autres? Est-ce que c'est le cas également pour vous, Aminata Dongo? Est-ce que c'est une période dans laquelle, à la maison, on surconsomme? Bonjour.
Oui, bonjour Aïssa. Franchement, j'essaye cette année aussi, à partir de cette année, de limiter la consommation. Parce que c'est comme Atoumata l'a dit, c'est comme en fait, je prends exemple sur mes enfants ou mon mari, c'est qu'en fait, comme on est privé la journée, on ne mange pas ce qu'on veut, ou comme on ne mange pas, et ben en fait, le soir, on a tendance à acheter tout, on va dans les magasins.
On regarde la nourriture sur Internet, des tutos de cuisine.
Voilà.
Tout à fait.
Donc du coup, c'est un peu les mauvaises habitudes que vous aviez avant. Alors comment vous allez faire pour changer tout ça? Est-ce qu'il y a une procédure? Est-ce qu'il y a des petites astuces? Comment vous allez réussir en fait à changer en fait ces mauvaises habitudes?
Bah déjà, moi j'ai commencé, c'est déjà de faire mes courses à l'avance. C'est-à-dire d'acheter vraiment ce dont j'ai besoin et uniquement ce dont j'ai besoin. De privilégier des légumes et de bannir un petit peu les sucres rapides, de faire des plats légers. Le soir, de pouvoir manger des plats légers, c'est très important.
Et, c'est-à-dire que quel genre de plat quand vous dites léger?
Moi, quand on nous fait la rupture du jeûne, je vais tendance à faire, peut-être chez nous, ça va être du rondé, c'est-à-dire une bouillie de mil,
ouais.
Et après de faire une salade ou quelque chose, des grillades, de la viande ou du poisson, voilà. Mais je, le soir, je ne ferai pas de riz, parce que je pense qu'après, au niveau de la digestion, je pense que c'est très difficile. Mais bon, après, pour les adultes, c'est plus facile, mais pour les jeunes, moi, le premier, il a 14 ans, c'est beaucoup plus compliqué de lui dire oui, mais il faut que tu manges équilibré.
Et le mari, parce que les maris, il y a des hommes en fait qui ne peuvent pas se passer du riz ou de la semoule.
Non, le mien, je l'ai bien assez sensibilisé par rapport à ça. Et
d'accord, ok.
Il a un petit peu arrêté de manger du riz.
Et c'est un petit peu plus compliqué pour les enfants, on dirait, non?
Oui, pour les enfants, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils vont à l'école, ils vont au collège. Et il y a un effet de mode aussi, c'est-à-dire de faire la rupture, ils vont à la mosquée. Et puis, ils veulent manger avec leurs copains. Mais ils vont tous manger dans les fast-foods. Hein. Ils vont acheter des pizzas.
D'ailleurs, vous leur donnez des sous pour qu'ils mangent à l'extérieur?
Moi, je ne donne pas trop de sous, en fait.
Pas trop de sous?
Non, je ne donne pas trop de sous parce que je pense que le ramadan, c'est aussi un moment de partage.
Ouais.
De partager avec ses copains, mais de les inviter à la maison. C'est un moment convivial, en fait, la rupture du jeûne. Et c'est important, en fait, qu'on se focalise aussi sur... le côté religieux et de dépasser le côté nourriture. Oui, mais le ramadan, ce n'est pas que ne pas manger, ce n'est pas que ne pas boire, en fait. Et moi, c'est ce que je veux apprendre à mes enfants. Arrêtez de vous focaliser sur le fait que le ramadan, on ne mange pas, on ne boit pas. C'est autre chose. C'est le mois sacré, c'est le mois du partage, où on se concentre sur soi, sur sa spiritualité. Et c'est ce qui fait avancer. Et une fois qu'on est vraiment bien cadré dans cette optique, et après, la nourriture, elle est secondaire, en fait. Même si on mange du pain, on mangera du pain. Même si c'est de la bouillie, c'est de la bouillie.
Qu'est-ce que ça a envie de dire, Aminata, Vanessa?
C'est sûr que ça aide, et puis beaucoup de choses se passent dans la tête. Enfin, le cerveau conditionne pas mal de choses, il peut habituer l'organisme à résister à beaucoup de choses. Donc, effectivement, à partir du moment où dans la tête, vous vous conditionnez à suivre tel ou tel rythme, ça va très bien se passer, le corps va très bien réagir et on aura ce qu'on disait tout à l'heure, tous les effets bénéfiques qu'on peut tirer du jeûne au-delà de l'aspect spirituel, d'un point de vue physique, scientifique, etc. On va retirer beaucoup de bienfaits du jeûne.
Alors justement, quels sont les aliments à privilégier lors de la rupture du jeûne? Alors souvent, on conseille par exemple, juste au moment de couper une date avec un verre d'eau ou un verre de lait, d'attendre un petit peu pour manger le deuxième repas un petit peu plus tard. Alors quels sont les aliments à privilégier et quels sont les aliments à éviter?
Alors le lait et notamment le lait fermenté, c'est plutôt des aliments quand on aime ça, c'est plutôt un aliment qui est très intéressant au niveau santé nutritionnelle. La date, pourquoi pas, les fruits séchés en tout cas, les figues, etc. pour apporter d'un coup beaucoup de vitamines, minéraux et puis un peu de sucre quand même pour recharger un peu les batteries de toute la journée. et puis après enchaîner sur un plat. Alors l'idéal, c'est d'essayer d'aller vers un menu équilibré, de continuer de suivre les grandes bases de l'équilibre alimentaire, avec peut-être d'autres plats un peu plus traditionnels, un peu plus culturels, mais qui restent avec des aliments basiques, c'est-à-dire des féculents, des légumes, de la protéine, c'est-à-dire de la viande, du poisson, des œufs. Essayer d'aller vers ce genre d'aliments. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plutôt judicieux, c'est-à-dire le danger aussi pendant le ramadan, c'est l'accumulation.
Ouais.
Accumuler des féculents dans la soupe, des féculents dans le plat, le pain en plus, des féculents dans le dessert, etc. Ça fait charger à la fin du repas. Donc l'idée, c'est d'essayer de varier au maximum et d'aller puiser des recettes avec toute famille d'aliments pour avoir un panel le plus large possible au niveau des apports alimentaires. Donc des plats à base de féculents, légumes, protéines, et éviter d'accumuler et l'entrée, et le plat, et le dessert, et le pain pour les féculents.
Vaut mieux répartir en fait, essayer de répartir un peu les aliments au fil de la soirée, de la nuit.
Répartir ou carrément essayer de trouver d'autres recettes, par exemple privilégier la soupe avec les féculents ou le mil, la bouillie de mil,
ouais.
Et moins de riz et de pâtes et de frites dans le plat. Ou inversement, si vraiment on a envie de manger des plats avec du riz, des pâtes, des pommes de terre, etc., plutôt faire une soupe à base de légumes et avec très peu, voire pas de féculents dedans, pour essayer d'équilibrer l'ensemble.
Alors, il y a aussi le repas avant le lever du soleil, du soleil, je ne sais plus comment on l'appelle. Je crois que vous allez peut-être m'aider à ton matin, Minata.
Le chour.
Alors, justement, comment s'organiser pour parce que c'est un repas qui est quand même important pour préparer le corps au reste de à la journée de jeûne. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut se réveiller, il faut s'organiser. Alors, qu'est-ce qui est recommandé de manger, sachant que certains se recouchent après pour ce repas, Aminata?
C'est très compliqué. Parce qu'en fait...
Vous vous réveillez pour le prendre, ce repas?
Oui, moi, je me réveille. Au début, il y a quelques années, je ne me réveillais pas parce que j'avais du mal à manger. Je suis pas... De base, je ne prends pas de petit déjeuner le matin. Je sais que ce n'est pas bien. Et en fait, pendant le ramadan, j'ai un effort de me lever. Mais là, en fait, il faut savoir qu'on va se réveiller à peu près vers 3h30, 4h. Ça fait très tôt. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, le soir, quand je vais faire la rupture du jeûne, je vais essayer de manger léger. Mais à 3h30, quand je vais me lever pour manger, je vais manger un petit peu plus consistant pour pouvoir tenir toute la journée. Quitte à prendre un plat de pâtes bolognaises ou... Les pâtes, j'aime bien manger les pâtes à 3h30.
Et vous, à tout matin?
Alors, je vais dire comme elle, c'est très compliqué. Moi, tout simplement, je fais l'impasse parce que c'est très difficile pour moi de me lever à une heure pareille et de manger. C'est compliqué, mais j'ai réfléchi aussi à savoir pourquoi c'était compliqué. Tout simplement parce que, comme a dit Aminata, on a cette tendance à manger beaucoup trop la veille et à manger tardivement, parce que du coup, on mange au moment de rompre, on commence par les dattes, le thé, on laisse passer un petit peu de temps, il y a la prière. Après, on attaque le plat de résistance et là, généralement, on se jette sur tout ce que l'on a mis sur la table. Je dis bien tout. On risque de délaisser même des plats qu'on a préparés, mais on a même plus de place pour les manger. Et puis, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des choses aussi qui sont des plats salés, des plats qui sont souvent pleins, des plats en sauce. Chez nous, effectivement, le riz, on ne fait pas l'impasse.
Vous en faites tous les soirs du riz pendant le ramadan?
C'est pas tous les soirs, mais de toute façon, en termes de... pas les apports, mais c'est pas du riz. Ça peut être le riz, ça peut être du couscous. Ça sera toujours un plat qui va être considéré comme un plat qui est quand même sacrément bien chargé. Parce que dans l'esprit, tant qu'on n'a pas ça, c'est qu'on n'a pas...
On n'a pas mangé.
On n'a pas mangé, voilà. Donc effectivement, moi, le matin, je suis une grande dormeuse, donc c'est compliqué, mais j'ai pas faim. J'ai tellement mangé, surchargé mon organisme que...
Qui d'ordine, quoi.
Mais ça marche quelques heures, parce qu'une fois que le soleil se lève et qu'il faut aller à son activité, là, on se dit,
si j'avais su,
on aurait dû.
Alors, justement, Vanessa, le fait, par exemple, de manger une première fois, d'aller se coucher un petit peu, de revenir, de remanger, est-ce que ça pousse à la prise de poids, je suppose?
Ça dépend de ce qu'on mange, honnêtement. Le rythme peut permettre de ne pas forcément prendre de poids, mais tout dépend de ce que vous allez manger avant de vous coucher. Si vous vous réveillez, et même quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous mangez le matin vers 3-4 heures? Faut savoir que, en tout cas moi, dans l'expérience que j'ai au niveau de mes patients, il y a très très peu de gens quand même qui se lèvent le matin pour prendre un repas ou un petit déjeuner. Au début, peut-être un petit peu, et puis après, ça passe un peu à la trappe. Alors pourquoi pas ? Enfin, faut adapter en fonction des capacités de chacun et du ressenti de chacun. De toute façon, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quoi que vous mangiez à 3-4 heures du matin, ça ne tiendra pas 16 heures dans le corps, de toute façon. Ça va aider un petit peu au départ, peut-être un peu psychologiquement
ouais,
aussi,
ouais.
Mais ça ne tiendra pas 16 heures dans le corps. Donc il faut faire en fonction de chacun. En revanche, sentir que vraiment on ne peut plus manger parce qu'on a trop mangé précédemment... Ça, du coup, il faut peut-être réajuster après et se dire, ok, je vais limiter un petit peu, quitte à peut-être avoir un petit peu plus d'appétit à 3 heures et pas forcément faire un repas, mais faire une petite collation ou un petit déjeuner et puis attendre le prochain repas le lendemain.
Est-ce que justement ce mois de jeûne perturbe le sommeil, fortement le sommeil? Quelles sont les conséquences? Et justement, est-ce que vous réveillez vos enfants pour qu'ils mangent le matin? Est-ce que c'est compliqué pour eux après à l'école? Est-ce qu'ils ne s'endorment pas sur leur... leur table.
Oui, tout à fait. Donc c'est compliqué.
Ouais.
En effet, moi je réveille. Alors ma fille va le faire pour la première fois cette année, mais mon fils en fait il se réveille. Enfin, en grandissant, il se réveille tout seul. Mais c'est vrai que la fatigue vraiment se ressent pour lui. Enfin, quand il rentre à la maison, quand on est en période de jeûne, comment vous dire que la maison elle est hyper calme jusqu'au moment de préparation. Voilà, mon fils rentre de sa journée, il est exténué, pas d'activité sportive pendant toute cette durée, bien entendu. Mais après, dès qu'il rentre, c'est bonsoir ou bonjour, et hop, il fonce dans sa chambre et on ne le voit plus. Et en fait, il s'allonge et il attend que le temps passe parce qu'il est fatigué complètement. Donc, c'est vrai que l'organisme, voilà, il souffre pas mal pendant cette période-là.
Un mot peut-être, Vanessa, sur le sommeil perturbé?
Oui, il y a aussi le sommeil perturbé quand il y a beaucoup de, parce qu'il y a beaucoup de préparation, de rangement, etc.
Surtout quand on travaille, on rentre, on fait à manger.
C'est un moment en famille, il peut y avoir du monde à la maison, donc du coup, faut ranger tout ça, faut préparer tout ça, faut préparer le prochain repas, etc. Donc, ça fait beaucoup de travail aussi, qu'on ne fait pas habituellement ou pas dans ces mesures-là, en tout cas. Et puis, le fait de se réveiller, d'avoir une nuit comme ça entrecoupée, oui, ça peut fatiguer. Après, il y a un peu moins d'activité aussi en général. Alors, le sport, évidemment, c'est pas forcément le bon moment pour en faire. Par contre, c'est bien de garder une activité douce, ne serait-ce que de la marche, hein, pour quand même maintenir le corps en activité, maintenir les muscles en activité.
Ouais.
Parce que sinon, le risque aussi, c'est d'avoir une fonte musculaire due à la privation alimentaire. Si en plus, le corps bouge plus beaucoup, le corps va éliminer un peu de masse musculaire. Et le vrai danger, parce que c'est pas très grave, mais le vrai danger, c'est d'accentuer l'état de fatigue, en fait.
On a beaucoup parlé de nourriture, on n'a pas beaucoup parlé d'hydratation. Alors, c'est ça, essentiel de bien s'hydrater, essentiel surtout en période estivale, où les risques de déshydratation sont plus élevés. Alors, on recommande du coucher au lever du soleil de boire au moins 1,5 litre. Alors, comment on fait pour pouvoir boire 1,5 litre alors qu'on n'a pas beaucoup de temps pour manger, pour se reposer ou pour faire d'autres choses? Alors, dites-nous un peu les conseils que vous donnez pour bien s'hydrater pendant le ramadan.
Alors, je crois que le vrai conseil pour s'hydrater, c'est de se concentrer sur l'eau et de laisser tomber tout le reste. Surtout pas les sodas, les jus, etc.
Les enfants, c'est compliqué.
Voilà, c'est déjà rarement conseillé d'en consommer. Mais alors, pendant le ramadan ou un jeûne, en tout cas, encore pire. Parce que du coup, il faut vraiment réhydrater le corps. Et ces boissons-là, elles font tout sauf hydrater le corps.
Même les jus de fruits?
Même les jus de fruits, alors en petite quantité, parce qu'on a l'habitude ou parce qu'on aime ça tout simplement, pourquoi pas, un verre en guise de petit déjeuner ou simplement par plaisir, pourquoi pas, mais s'hydrater avec du jus de fruits, c'est-à-dire boire 500 ml, 1 litre de jus de fruits, c'est vraiment pas la bonne solution du tout, parce que c'est du liquide sucré, donc ça ne va pas hydrater le corps comme il le faudrait avec de l'eau pure. Alors après, si l'eau pure, c'est pas forcément très amusant ou ça passe mal, déjà, pensez simplement à mettre au frais, ça passe mieux en général, c'est tout bête, mais ça marche mieux. Il peut y avoir de l'eau pétillante, ça marche aussi, on peut consommer de l'eau pétillante sans problème. Et puis après, on peut, pour faire un peu plus amusant, un peu plus marrant, aromatiser ces eaux, alors pas avec des sirops, pas avec des choses comme ça, mais...
Avec du citron...
Exactement, du citron, des feuilles de menthe...
Des fruits rouges.
Des fruits rouges, exactement. Ça a été très à la mode il n'y a pas si longtemps que ça. C'est plutôt une bonne solution, ça donne un petit goût, c'est totalement sans sucre, hein, évidemment. Voilà, ça peut être la petite solution amusante.
Alors, les filles, Tomata et Aminata, je vous ai vu sourire parce qu'on a parlé des boissons sucrées avec les enfants. C'est vrai, c'est pas évident. Moi, je me souviens, j'avais une petite sœur, des fois, coupée son ramadan avec, avec du truc rouge, là, du soda. Alors, comment vous faites pour éviter, justement, trop de boissons sucrées pendant cette période? Et comment, surtout, vous réussissez à leur faire boire suffisamment d'eau pour qu'ils soient hydratés toute la journée, suffisamment pour tenir la journée? Aminata.
Pour moi, c'est compliqué.
C'est compliqué.
Bon, moi, je privilégie quand même. Bon, le ramadan, ça reste quand même un mois assez festif lors de la rupture. Et c'est vrai que je privilégie de faire, à la place de boire des boissons gazeuses lambda, de faire plus des jus traditionnels de chez nous, comme ouais. Les jus de gingembre, le bissap. Voilà, c'est-à-dire voilà, de mettre moins de sucre, mais bon, après, ça reste. Voilà, des jus d'ananas, voilà. Mais bon, j'élimine totalement les boissons gazeuses. C'est à bannir.
Ah, vous en achetez pas du tout pendant la période?
Non.
On vous en demande ou
Ah bah oui. En temps normal, les enfants, maman, j'ai soif, mais va boire de l'eau. Mais non, en fait, tant qu'ils n'ont pas bu leur boisson gazeuse, en fait, non, ça fait, ils sont obligés de boire. Nos enfants sont conditionnés pour boire des boissons gazeuses. Et c'est pas bien, en fait. Il faut qu'on leur apprenne à boire de l'eau. L'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la base. Et moi, à chaque fois, je suis en bataille avec.
Vous surveillez un peu qu'ils en boivent suffisamment.
Voilà, et de l'eau, j'essaie de faire en sorte qu'ils essayent de boire. Bon, un litre, c'est trop pour des adolescents, parce que. Voilà, mais bon, de faire en sorte qu'ils boivent de l'eau, c'est important. Et il ne faut pas acheter de boissons gazeuses pendant le ramadan, même si c'est en promotion.
À tout matin.
Je partage tout à fait ce que vient de dire Aminata. Au niveau des boissons chez moi, alors c'était compliqué pour les enfants, mais pour moi aussi, puisque j'ai été vraiment addict au sucre. Alors les boissons, je coupais bien entendu pas avec la boisson sucrée, mais par contre, oui, forcément durant le repas. Alors là, oui, je dis pas que je ne buvais que ça, mais c'était l'eau était vraiment la part la moins importante de ce que je prenais. Les enfants, exactement la même chose. Et puis, encore une fois, ça, c'est même bien avant le ramadan. C'est vraiment une habitude que j'ai essayé de faire comprendre aux enfants que c'était urgent qu'ils prennent cette habitude, parce que de leur faire comprendre pourquoi l'eau était importante pour leur corps et l'hydratation. Et donc, du coup, l'astuce a commencé par chaque repas, m'assurer que déjà, il n'y avait pas de boisson gazeuse sur la table, que de l'eau. Chacun avait au moins bu son verre d'eau à chaque repas. Et de là, c'est passé à chacun sa bouteille d'eau. Donc, ça me permet en fait de voir comment descend l'eau dans la bouteille.
Ouais.
Et maintenant, ils prennent de même leur bouteille d'eau. Ils vont dans leur chambre avec. Enfin, vraiment, ils se déplacent tellement, je leur ai dit l'eau, que maintenant, ils se déplacent un peu dans la maison avec ça. Et donc, durant le ramadan, ça va être ne pas acheter. Alors, c'est pas ne pas du tout acheter, mais c'est vraiment limiter les boissons sucrées. Privilégier comme d'habitude l'eau, mais tout passe vraiment toujours par une communication en fait. Il faut le dire, il faut le répéter, et puis il faut prouver aussi, parce que c'est bien de dire, mais si moi je bois du sucré et que je leur dis,
c'est ça,
même pas la peine. Donc il a fallu que je commence déjà moi en fait, c'est ça, vraiment moi, par changer les choses. Et puis voilà, maintenant alors c'est des habitudes, donc il faut, c'est une habitude, ça, pour que ça soit installé, il faut vraiment le répéter tout le temps. Parce qu'on peut très rapidement, le sucre, vraiment, j'ai tellement été accro au sucre que je sais que c'est quelque chose qui peut revenir si jamais, si jamais je reprends à nouveau l'habitude de consommer du sucré. Donc, faut parler, en fait. Faut vraiment parler et montrer l'exemple aussi. Enfin, moi, c'est ce que je pense.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Vanessa?
C'est super. Alors, c'est sûr que les enfants, ça copie, à tous les âges d'ailleurs, ça copie beaucoup ce qu'ils voient autour d'eux, et notamment les parents. Et donc, du coup, vous étiez un peu obligé de passer par vous-même par cette phase d'élimination des sodas, ou en tout cas de réduction des sodas, pour pouvoir faire passer le bon message aux enfants. Donc, c'est parfait. Juste vraiment pour insister quand même sur les sodas ou les boissons sucrées en général. Notamment pendant le ramadan, c'est vraiment se compliquer et éprouver encore plus l'organisme qui est déjà bien éprouvé pendant le ramadan, parce que quand vous buvez du sucré comme ça, et surtout si c'est en grosse quantité, ce qui peut arriver assez régulièrement, vous avez vraiment une réaction dans le corps qui va vous compliquer la vie encore plus.
C'est l'insuline.
Exact. C'est la glycémie, alors l'insuline aussi du coup, parce que ça, c'est résultant, mais c'est la glycémie qui va augmenter énormément et qui du coup ensuite va chuter énormément, tout ça plusieurs heures après. Et quand elle va chuter énormément, vous avez une grosse sensation de fatigue, et le problème c'est que vous avez envie de manger n'importe quoi à ce moment-là. Or, vous ne pouvez plus manger du tout à ce moment-là. Donc, c'est vraiment éprouver encore plus le corps et l'obliger à être d'autant plus, à réagir d'autant plus dans une situation où déjà il est très, très sollicité.
Alors, on rappelle toutefois que les personnes atteintes de maladies chroniques doivent se rapprocher de leur médecin. Les personnes malades sous traitement lourd, les femmes enceintes sont exemptées de faire le ramadan. Donc, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin. Et si, malgré tout ça, vous décidez de faire le ramadan, il faut bien être suivi, surveiller régulièrement votre glycémie pour les diabétiques. Si vous décidez de faire le ramadan, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'ores et déjà de votre médecin traitant. Temps, n'hésitez pas à en parler. Alors, est-ce qu'il y a comme ça des choses qui vous viennent en tête, des conseils que vous avez envie de donner pêle-mêle aux éditeurs qui nous écoutent et qui commencent déjà à se préparer au ramadan? On voit sur les réseaux sociaux que tout le monde en parle, tout le monde appréhende, tout le monde dit ça y est, c'est dans quelques jours. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent? Je vais faire un petit tour de table, peut-être d'abord vous, Tomata Fesoko, quelles sont les choses sur lesquelles vous vouliez vraiment insister?
Oui, donc c'est vrai qu'on est dans cette période un peu d'effervescence, là, avant le début du ramadan. Moi, ce que j'aurais envie de partager, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Aminata, c'est le sens de ce jeûne. Bien se rappeler que c'est vraiment, pour moi, c'est un peu à la fois comme une mise à jour, un nettoyage de l'esprit et du corps, de bien garder ça en tête, de se centrer sur soi, moins sur les choses qui sont finalement... Oui, c'est normal, il faut se nourrir, voilà, on a besoin, mais ce n'est pas l'essentiel, parce que c'est vrai que dans le discours et dans ce qu'on peut voir aussi au niveau, tout à l'heure vous parliez de surconsommation, on a vraiment l'impression que le ramadan est vraiment une période qui est réduite simplement à la nourriture. Plus on a, plus on est heureux, plus on est bien, alors que... Au contraire, c'est vraiment le sens premier pour moi, c'est tout le contraire. C'est vraiment de revenir à des choses essentielles.
De dire surtout que le ramadan, c'est pas une fête.
C'est à la fin, voilà, pour qu'on puisse se réunir. Mais pendant le ramadan, c'est effectivement ça. C'est vraiment une période où on doit vraiment, pour moi, se centrer là-dessus. Et puis, ce que je partagerais, c'est vraiment de, même si les choses se font petit à petit, c'est simplement d'avoir cette prise de conscience sur quoi manger, comment le manger, à quel moment. Parce que le corps, on n'en a qu'un, quoi, j'ai envie de dire. Donc, plus on le surcharge et plus on prend le risque de l'abîmer. Et voilà. Donc, c'est vraiment, surtout cette période-là, où on met vraiment le corps sous tension. Il faut vraiment être, j'ai envie de dire, d'être bon avec soi-même, quoi. Voilà ce que j'ai envie de dire.
Aminata Dongo, que vous avez envie de dire?
Moi, déjà, j'ai une pensée pour toutes les femmes qui vont être dans les fourneaux.
Merci.
Oui, effectivement, pendant le ramadan, c'est vrai que nous, les femmes, déjà, on est éprouvées parce qu'on doit faire la cuisine. Moi, j'ai des enfants, j'en ai deux en bas âge, qui ne vont pas manger. Mais bon, il faut bien que je nourrisse mes autres enfants. Il faut préparer le repas, il faut accueillir les invités, la famille, s'il y en a qui viennent. Mais il faut juste s'organiser, c'est un mode spiritualité et faut se rapprocher de la religion. C'est le travail vraiment mental qui va nous faire tenir et franchement c'est toujours une joie, même si c'est compliqué au début. Le ramadan, franchement, c'est comme elle a dit Fatmata, c'est une mise à jour, c'est un nouveau départ, on purifie l'esprit, on purifie le corps. Et on se donne rendez-vous à la fête de l'Aïd. Hein. Bon ramadan à tout le monde. Et voilà, merci.
Merci. Alors Vanessa, je vais vous laisser aussi donner les dernières recommandations. Peut-être qu'on a oublié de dire certaines choses. Comment vous avez envie de conclure ?
Le premier point, ça a été dit, c'est de s'organiser effectivement au niveau de la préparation des repas. Peut-être essayer d'aller prendre le temps d'aller vers des choses un peu différentes parce qu'il y a beaucoup de gens du coup qui mangent un peu tout le temps la même chose au ramadan. Tous les soirs, c'est les mêmes repas, les mêmes rituels. Ça peut être bien aussi d'aller vers d'autres aliments ou en tout cas d'autres recettes, c'est pas forcément d'autres aliments, pour varier les choses. Pensez aussi à varier les types de cuisson, ça peut faciliter la vie des femmes qui cuisinent. Les crudités par exemple... c'est très important d'en avoir tous les soirs, que ce soit des légumes, des fruits, dans l'idéal un peu des deux. Et puis ça demande un petit peu moins de travail en général, donc c'est bien d'y penser, ça peut soulager certains soirs où vraiment on n'a pas envie. Et puis après du coup, essayer de s'adapter, de faire en fonction de chacun, de voir les limites de chacun. Et essayer d'en tirer un maximum de bienfaits.
Et pour les enfants, peut-être des recommandations particulières ?
Non, non, essayer de limiter les boissons sucrées, j'insiste, c'est mon truc, hein, les boissons sucrées, il faut vraiment essayer de limiter. Ouais. Et puis après, aller au maximum, c'est toujours pareil, diversifier au maximum les apports alimentaires, aller vers d'autres aliments, chercher, creuser un petit peu, en profiter pour, pourquoi pas, se poser des questions sur ce qui peut être le meilleur pour votre corps ou pas à ce moment-là.
Merci en tout cas à toutes les trois d'être venues pour nous donner des conseils, comment s'organiser pour manger équilibré pendant le Ramadan. Merci beaucoup d'être venues. Cette émission sera podcastable dans quelques minutes sur les réseaux de la Radio Afrique.